Vous êtes à l'écoute de RFI, il est 19h en temps universel, 21h ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
Témoignage à suivre dans ce journal, celui d'un Libanais habitant d'un village de la plaine de la Beka dans l'est du pays. L'homme que nous entendrons refuse de quitter ses terres malgré la menace toujours plus forte des frappes israéliennes. Des frappes qui ont tué plus de 1500 Libanais en un mois, d'après un décompte de l'agence France Presse. À la une de l'actualité également, la plus grande réunion diplomatique en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Une vingtaine de dirigeants étrangers sont à Moscou aux côtés de Vladimir Poutine pour le sommet des BRICS. Le président russe reçoit ses alliés et prône une alternative diplomatique et économique au bloc occidental. Et puis, nous prendrons aussi la direction de Boston aux États-Unis pour parler de basket et de la reprise cette nuit de la NBA. Les Celtics remettent en jeu leur titre de champion de la Ligue nord-américaine. Plus de 1500 Libanais ont donc été tués en un mois. Nouvelle illustration de l'intensification des bombardements israéliens au Liban. Ces frappes de l'État hébreu qui ont ciblé ce mardi les environs de la banlieue sud de Beyrouth. Une zone où l'armée israélienne appelle à l'instant à l'évacuation. C'est là aussi hier, dans les alentours de la capitale libanaise, qu'un hôpital a été touché par une frappe. Il y aurait au moins 18 morts et 60 blessés. Et ce soir, le Liban fait état par ailleurs de 10 morts dans deux autres frappes sur le sud et l'est du pays. L'est du pays est la plaine de la Beka, une zone où ceux qui n'ont pas encore pu fuir sont contraints de se débrouiller seuls pour survivre. C'est le cas d'Abou Ali, un Libanais chiite qui habite le village de Taraya.
Je dois faire 10 km à pied pour venir dans cette pharmacie. C'est la seule qui est ouverte aux alentours. Ma femme a fini ses médicaments pour la tension et le diabète, donc je viens en chercher. Comment vous expliquer que ce soit le seul endroit ouvert après les frappes? Même cette pharmacie a été touchée par une explosion. Moi, je n'ai pas d'argent pour me déplacer et partir. Nous sommes 8 à la maison. Ma femme, moi, mes enfants. Regardez, il n'y a plus rien ici. Même la boulangerie est fermée. On survit en faisant du pain chez nous, avec nos propres réserves. Où est l'humanité? Que font les Nations Unies? Où sont la France et les droits de l'homme?
Un témoignage au micro RFI de Pierre Olivier et l'aide humanitaire, cette fois dans la bande de Gaza. Il en a été question lors de l'entretien ce mardi entre Benjamin Netanyahou et Anthony Blinken. Un échange à Jérusalem, lors duquel le chef de la diplomatie américaine a appelé le Premier ministre israélien à prendre des mesures supplémentaires pour les habitants de l'enclave palestinienne. Anthony Blinken, qui effectue là son 11e déplacement dans la région depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Le secrétaire d'État américain qui se rendra demain en Arabie Saoudite à 2 semaines de la présidentielle aux États-Unis. Le résultat de la course à la Maison-Blanche qui pourrait également avoir un impact dans la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky espère en tout cas que le futur président américain donnera un coup de pouce à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Le soutien américain à Kiev pourrait en effet être mis en péril en cas de victoire du candidat républicain Donald Trump. Dans ce contexte, une vingtaine de dirigeants étrangers sont réunis en ce moment autour de Vladimir Poutine. Ils sont venus de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud ou encore de Turquie. Une rencontre en marge du sommet des BRICS à Kazan. Le moment choisi par Moscou pour montrer le poids de cette alliance de pays émergents qui se veut une alternative diplomatique et économique au bloc occidental. L'idée d'une monnaie unique a été un temps évoquée pour réduire la dépendance des pays membres au dollar, mais elle paraît encore très prématurée. Nathanaël Vitran.
La création d'une monnaie unique interno-BRICS, inimaginable sans union économique préalable et sans projet politique pour Bruno Cabriac, directeur général de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe aucune alternative.
Ce qui pourrait être fait, c'est éventuellement une monnaie composite qui ne serait pas une vraie monnaie commune, mais qui serait une monnaie de réserve. Et ça, c'est important parce que ça permet d'essayer d'échapper aux sanctions américaines.
L'économiste Alexandre Kateb pense, lui, que les BRICS pourraient s'appuyer sur les crypto-monnaies.
Aujourd'hui, on peut échanger, par exemple, du rouble contre du yuan sans passer par le dollar. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur ces avancées technologiques qui utilisent notamment la blockchain et les monnaies digitales pour construire un système beaucoup plus cohérent avec des institutions, avec un certain nombre de standards techniques, etc., qui pourrait constituer une alternative par le bas au rôle du dollar.
Si la dédollarisation de l'économie mondiale est dans l'air du temps, Vladimir Poutine lui-même a reconnu en amont du sommet de Kazan qu'une monnaie unique n'était pas à l'ordre du jour.
Nathanaël Vitran du service économie des RFI. Une loi russe condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par 107 ONG, la CEDH a déclaré arbitraire un texte russe qui impose aux personnes présentes dans le pays de déclarer leurs activités avec des organisations soutenues ou financées par l'étranger. Une loi qui a pour but de punir et d'intimider les opposants du Kremlin, assure la Cour européenne des droits de l'homme. Dernier exemple en date, le français Laurent Vinatier, condamné à 3 ans de prison pour ne pas avoir déclaré qu'il travaillait pour une association suisse de médiation diplomatique. On a d'ailleurs appris ce mardi qu'il contestait la décision de justice rendue par un tribunal de Moscou. En France, très vite, Nicolas Bedos a annoncé qu'il ferait appel. L'acteur et réalisateur français a été condamné ce mardi à Paris à 1 an de prison, dont 6 mois ferme avec sursis probatoire. Il était jugé pour agression et harcèlement sexuel sur 3 femmes entre 2018 et 2023. Le tribunal correctionnel a retenu les faits d'agression sexuelle et a ordonné que la peine soit effectuée à domicile sous surveillance de bracelets électroniques. Un verdict qui ne satisfait pas la défense de l'acteur français, Frédéric Genot.
Pour l'avocate de Nicolas Bedos, la sévérité de la condamnation est inédite, injuste et totalement inacceptable. Maître Minkowski estime que le jugement est inique et appelle chacun à y réfléchir. Les agressions sexuelles reprochées à son client se sont passées dans une boîte de nuit ou un bar. Il était ivre. Dans un cas, il a attrapé une jeune femme par la taille et l'a embrassée dans le cou. Dans l'autre, il a tendu la main au niveau du sexe de la jeune femme par-dessus son jean. Pour le tribunal, l'alcoolémie est une circonstance aggravante. L'avocat d'une des deux victimes a déclaré se satisfaire d'une décision qui, dans son principe, fait avancer la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une décision à valeur pédagogique, a-t-il précisé. Sur les réseaux sociaux, en peu de temps, on a bien vu les points de vue très tranchés des uns qui considèrent que la peine est disproportionnée et des autres qui se félicitent de cette décision précisément parce que la célébrité est une responsabilité. Lundi prochain, c'est l'acteur français Gérard Depardieu qui sera jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes.
La précision signée Frédéric Genot. Allez, on prend à présent la direction des États-Unis et de Boston, à la ville américaine vers laquelle tous les regards des fans de basketball seront tournés. Aux États-Unis, la saison de NBA débute ce soir. 30 équipes vont tenter de se qualifier pour les phases finales du printemps prochain. Le match d'ouverture oppose donc les Boston Celtics aux New York Knicks. Boston, une équipe mythique du championnat qui remet son titre en jeu, Victor Missistrano.
En remportant une 18e bague de champion NBA, les Celtics ont dépassé les Los Angeles Lakers en tête du palmarès. Titré cet été à Paris avec les États-Unis, Jason Tatum est l'un des 3 champions olympiques de cette équipe.
L'important, c'est d'abord d'être fier de ce que nous avons accompli la saison dernière. Ça a été une année extraordinaire. Nous avons formé une équipe incroyable et nous sommes entrés dans l'histoire. Cette année, nous n'avons pas le sentiment de devoir défendre notre titre, mais plutôt d'essayer d'en gagner un autre.
C'est cette culture de la gagne qui a fait de Boston le grand favori à sa propre succession, selon un autre champion olympique, Joel Embiid. Le natif de Yaoundé sait ce qui manque à son équipe, Philadelphie, pour atteindre enfin une finale de conférence.
Il ne s'agit pas nécessairement du type de joueur, mais plutôt de la cohérence collective, de jouer avec les mêmes gars pendant longtemps, quand chacun sait ce qu'il a à faire, où se placer, la culture.
Culture de la gagne, culture collective, le grand chantier des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, la principale attraction. Le Français, dont les 2m24 seront toujours plus au centre des regards pour sa 2e saison. Wemby espère que ce sera celle de la confirmation.
Et pour voir Victor Wembanyama à l'œuvre avec San Antonio, il va falloir attendre jusqu'à jeudi. Avant ça donc, rendez-vous à 23h30 temps universel pour le match d'ouverture entre Boston et New York. Un mot de football à présent pour refermer ce journal avec la 3e journée de la Ligue des Champions en Europe. Monaco s'est imposé sur le score sévère de 5-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. De son côté, le PSG affronte en ce moment le PSV Eindhoven. 0-0 au bout de 10 minutes de jeu RFI. À 21h10 ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous.